Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Ravi de vous retrouver, bienvenue sur RMC. Vous écoutez votre matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous et bonjour surtout à tous les marathoniens. Ça y est, plus que deux heures avant le grand départ, c'est à Paris, derniers échauffements avant les 42 km. On pense à vous ce matin sur RMC, vous l'avez déjà couru, vous, le marathon Mathieu?
Pas celui de Paris.
Lequel?
J'ai failli faire un marathon à Anvers en Belgique.
Presque marathon.
Presque marathon, ouais, presque tous les kilomètres. Mais
sacrée histoire, bon, voilà, en tout cas.
Je vous raconterai. Je crois qu'il y a des journalistes d'RMC qui courent le marathon ce matin.
Oui, on pense bien à eux. On espère qu'ils arriveront au bout, mais j'en doute pas.
On les encourage. Les marathoniens de l'info pour vous accompagner. Stéphanie voilà. Rock, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
Ça nous va bien, ça, marathonien.
Peggy Broche est là aussi.
Plus moi que
bonjour Peggy.
Bonjour tout le monde.
Allez, j'espère que vous allez bien. Rejoignez-nous, vous composez le 32-16. Les messages sur l'appli RMC. Pour débattre de tous les sujets d'actualité, on va parler de la fin de vie ce matin, dernier jour de la convention citoyenne. On sera avec deux de ces citoyens tirés au sort à 8h40. Est-ce qu'il faut permettre l'aide active à mourir en France? Dans quelles conditions? Vos avis, vos témoignages au 32-16 tout au long de la matinée.
Et on va aussi revenir sur l'affaire Marlène Schiappa, la une du magazine Playboy, pour défendre les droits des femmes. Inappropriée, l'a recadré hier Elisabeth Borne. Est-ce que la ministre dessert le combat féministe? On posera la question à Pauline Baron, membre du collectif Nous Toutes, mon invité à 8h10. Est-ce que ça vous choque? Les critiques contre Marlène Schiappa sont-elles sexistes? Vous réagissez bien évidemment au 32-16.
Et puis, les trottinettes à Paris, bientôt fini ou pas? Là aussi, il y a une consultation aujourd'hui, référendum citoyen des Parisiens. À 7h40, l'un des opérateurs de ces trottinettes, le patron de Dot, sera avec nous.
On a beaucoup de choses à lui dire.
On a beaucoup de questions à lui poser. Peut-être que vous aussi, 32-16, si vous voulez l'interpeller. Et dites-nous, est-ce qu'il faut bannir les trottinettes de nos villes en France? Le 32-16 est aussi ouvert pour ça ce matin.
Bon réveil à tous sur RMC, soyez les bienvenus.
Il est tout pile 6h. Un tout premier journal, Stéphane Jeunesse.
Elisabeth Borne accueillie par plusieurs milliers de manifestants dans son fief normand hier. Interdire la chasse le dimanche après-midi, c'est possible. Une commune des Vosges a passé le pas. Et gros coup de lance hier soir, les nordistes sont deuxièmes de Ligue 1 au détriment de Marseille.
Et à 6h20, votre coup de main conso, on ira dans les écoles de formation, de cuisine ou encore de coiffure pour se faire plaisir à tout petit prix.
La matinale week-end.
Elisabeth Borne continue d'être présente sur le terrain.
La première ministre qui enchaîne les déplacements après la Nièvre vendredi. Elle était à Vire hier dans le Calvados, dans sa circonscription. La chef du gouvernement accueillie par des manifestants opposés à la réforme des retraites, Kevin Gasser.
Cette enseignante d'Avranches a fait près d'une heure de route pour se faire entendre à Vire.
Venir là sur le terrain d'Elisabeth Borne, oui, c'était important.
Les journées de mobilisation défilent, mais la motivation est intacte.
J'attends que la loi soit retirée.
Gérald est retraité.
Je n'ai pas d'autre chose à faire que de demander ça. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, 64 ans. Je ne suis pas sûr que ça soit dans l'air du temps.
On lâchera rien.
Avec l'objectif de tenir, insiste Patrice, élu CGT à Avranches.
On va falloir aller jusqu'au bout et puis jusqu'au retrait, quoi. Et on lâchera rien. Si on veut y arriver, faut bloquer l'économie.
Les manifestants ont en ligne de mire le 6 avril, date de la prochaine journée de mobilisation nationale.
Elisabeth Borne qui recadre Marlène Schiappa après l'annonce d'une interview et d'une publication de photos dans le magazine Playboy. La première ministre qui fait savoir à sa secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire que ce n'est pas du tout approprié. Fin de citation. La majorité présidentielle qui est bien embarrassée, hein, comme le montre la réaction du député Renaissance Ludovic Mendès.
Je pensais que c'était un 1er avril en avance. En fait, la réalité est là. Je fais partie des gens qui se sont posé cette question. Je peux comprendre le combat féministe. Je ne vois pas Playboy parler aujourd'hui du féminisme. Donc il y a un vrai problème. De le message que l'on fait passer. Et la réalité, c'est que oui, au moment où on est en train d'avoir le pays avec des personnes radicalisées qui le mettent à feu et à sang, on a des personnes qui représentent la majorité et le gouvernement qui posent dans un magazine comme celui de Playboy.
La première ministre, justement, qui se prépare aussi à entamer une semaine bien remplie.
Premier rendez-vous avec les responsables de groupes parlementaires, les partis, les syndicats pour évoquer la réforme des retraites. Ce sera demain. Et ce matin, on sait que la France Insoumise, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts déclinent l'invitation. Les Verts, qui en revanche seront accueillis à Matignon mardi, mais pour parler sécurité et maintien de l'ordre, comme l'explique la députée écolo Sandrine Rousseau.
Je suis inquiète d'un changement de maintien de l'ordre, de doctrine de maintien de l'ordre. Quand on voit qu'il y a des manifestants qui sont arrêtés de manière préventive, c'est quand même une atteinte au droit de la manifestation, qui est constitutionnelle en France. Je demande à ce qu'il y ait une mission d'enquête sur la manière dont le maintien de l'ordre a été effectué à Sainte-Soline, quelles étaient les consignes, quelles étaient les politiques de protection des personnes qui étaient sur place, et d'une manière générale, pourquoi il y a une forme d'escalade de la violence vis-à-vis des militants écologistes.
Et dans ce contexte, une enquête a été ouverte par l'IGPN après la diffusion d'une vidéo où l'on voit une altercation entre un policier et un manifestant dénudé à Lyon. Cela se serait déroulé jeudi en marge d'un rassemblement contre la réforme des retraites. Et justement ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce dans le journal du dimanche que 36 enquêtes sont menées par l'IGPN depuis le début de la mobilisation en janvier. 2 pour l'IGGN, l'équivalent pour les gendarmes.
6h03 sur RMC. L'actualité ce matin, c'est aussi la fin de la Convention citoyenne sur la fin de vie.
Les 184 membres de cette commission répondront à cette question. L'euthanasie doit-elle être autorisée en France ? Réponse donc à midi avant de présenter les conclusions de ces mois de travaux à Elisabeth Borne. Autre réponse, ce sera ce soir à Paris, la fin ou pas des trottinettes électriques en libre service dans la capitale. Les Parisiens qui sont appelés à voter pour s'exprimer sur ce sujet par référendum.
À Saint-Dié-des-Vosges, on s'est aussi concerté, mais pour interdire la chasse le dimanche.
Le dimanche après-midi, une mesure entrée en vigueur hier, mais qui ne sera pas appliquée, justement, que début juin, lors de l'ouverture de la chasse. Décision prise après des discussions entre les chasseurs et la mairie de Saint-Dié-des-Vosges. Et cela pour le plus grand bonheur des randonneurs, Mao Becker-Granier.
Se promener en toute sérénité dans ce terrain de jeu magnifique.
C'est rassurant, c'est confortable.
Claude Johannes, président du club de randonnée de Saint-Dié, y pense depuis longtemps.
On aura pu à réfléchir, savoir s'il y a une chasse ou pas dans tel et tel secteur, ou alors rebrousser le chemin dès qu'on entend des chiens au loin.
Une décision qui a été prise en harmonie avec les chasseurs de la commune, une sorte de concession pour redorer leur image.
Ah oui, de toute façon, c'est un effort, ça c'est sûr. Hein.
Bernard Fertig, président de la société de chasse de Saint-Dié, comprend la nécessité de cette mesure.
Quand on entend un coup de carabine, maintenant ça fait du bruit quand même. Hein. Les gens ont toujours peur parce que les balles vont plus loin et ainsi de suite.
Alors certes, les chasseurs auront toujours le dimanche matin et pourront l'après-midi aller chasser sur les communes voisines, bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses à songer également à des restrictions, comme l'explique le maire de Saint-Dié, Bruno Toussaint.
J'ai de très très nombreux maires de France qui m'ont contacté pour me demander comment on avait procédé avec les chasseurs pour en faire de même dans leur commune.
Dans cette commune, chaque année, les chasseurs sont de moins en moins nombreux, alors que les promeneurs, eux, gagnent du terrain.
Faut-il interdire la chasse le week-end ? Vous réagissez ce matin, on vous attend au 32-16 pour en débattre en toute liberté. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur notre application Direct Studio, notre application RMC. 6h05, les sports avec du foot et ce gros coup de lance hier soir.
Les nordistes qui ont chippé la deuxième place du championnat à Marseille grâce à leur victoire sur Rennes 1-0. C'était hier pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Mission accomplie pour Franck Haise, l'entraîneur lançois.
On a 9 matchs pour continuer sur notre dynamique, voilà, continuer notre saison. On connaîtra encore certainement des hauts et des bas sur ces 9 matchs. On trace notre chemin et on avance. On regarde avec fierté aujourd'hui, surtout d'avoir 60 points. C'est surtout ça, la deuxième place, franchement, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, vraiment, honnêtement. Mais 60 points à la 29e journée, pour le Racing Club de Lens, ça c'est quelque chose de fort.
Aujourd'hui, 7 rencontres sont au programme, dont PSG-OL en clôture de cette 29e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 20h45, un match que vous vivrez évidemment en direct sur RMC.
Et puis 3 autres grands rendez-vous, grands événements au programme aujourd'hui, avec d'abord de la Formule 1.
Et oui, puisque dans moins d'une heure maintenant, le départ du Grand Prix d'Australie est donné. Le Néerlandais Max Verstappen partira en pole position. Il y a aussi du cyclisme aujourd'hui avec le deuxième monument de la saison, c'est le Tour des Flandres. Ce sera tout au long de la journée à vivre évidemment sur RMC. Et puis dans 2 heures maintenant, un peu moins de 2 heures, top départ du Marathon de Paris, départ sur la prestigieuse prestigieuse avenue des Champs-Élysées. Et après ces quelques semaines de contestation dans les rues de la capitale, l'enthousiasme des participants, lui, eh bien, il reste intact, Morgane Maury.
Le sourire aux lèvres, Alexander, originaire de Vancouver, au Canada, vient chercher son dossard.
Dans le média, il a dit qu'il y avait beaucoup plus de déchets et tout ça qu'on avait vu ici. Je n'ai pas vu ça.
Poubelle dans les rues, manifestations, grève des transports. Les dernières semaines ont été agitées à Paris et les coureurs, parfois un peu angoissés, comme Célia, norvégienne.
J'étais un petit nerveuse. Je pensais que peut-être on va annuler parce qu'il y a beaucoup de police qui fait autre chose. C'est ça.
Bernard est québécois des marathons. Il en a couru des dizaines. Ce sera son premier à Paris. Passé une pointe d'inquiétude, il trépigne avant les 42 kilomètres.
J'étais hors dimanche parce qu'on m'a dit que c'était un très beau marathon. Puis je suis convaincu qu'avec une belle ville comme Paris, le marathon est très beau. On va être en sécurité.
Plus de stress, mais beaucoup de sueur maintenant pour les 52 000 coureurs au départ.
42 kilomètres à parcourir. Bon courage à tous pour le marathon de Paris qui commence dans moins de 2 heures maintenant. On pense à vous évidemment, on sait que ça a été des longs mois d'entraînement et on salue aussi tous ceux qui nous écoutent ce matin, même ceux qui ne sont pas sportifs. Vous nous envoyez vos messages sur Direct Studio. On salue Guillaume qui nous dit: j'ai l'impression que Mathieu et moi, on a le même niveau de marathon. Je ne sais pas ce que vous sous-entendez, Guillaume.
Non mais c'est vrai, j'ai fait un marathon mais à l'envers moi. C'est-à-dire 42 kilomètres, mais il y en a avec 8. Bon, bref, ça va.
C'est déjà pas mal.
C'est toujours les marathoniens qui disent ouais.
Oui. L'important, c'est de participer, Mathieu.
Pendant 5 mois, j'ai mangé des pâtes pendant une semaine avant, puis tu parles, tiens. On les reverra tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. C'est Porte Dauphine, c'est ça, à Paris.
Exactement, après les 42 kilomètres. Et puis, un petit message de Sony aussi qui nous souhaite un très bon dimanche. Bon dimanche aussi. Salut, à Sony. Vous, Sony. Profitez bien de ce jour de repos.
Vous êtes tous les bienvenus, même les sportifs du dimanche. 32-16, l'application RMC. Et on a encore une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Le coffre. Le coffre est de retour. On vous a gâté, c'était au moment de Noël. Il y avait jusqu'à 10 000 euros dans la cagnotte du coffre RMC. Ce coffre revient, vous pouvez vous inscrire depuis hier pour gagner jusqu'à, écoutez bien cette fois-ci, jusqu'à 30 000 euros, Marguerite.
C'est énorme. Et vous pouvez jouer dès que vous entendez ce signal. Écoutez. Le petit bruit du coffre qui s'ouvre et le pactole qui se déverse. Vous avez 5 minutes alors pour envoyer coffre au 7-32-16 et vous inscrire. Coffre au 7-32-16, ça peut arriver à tout moment, donc il faut être très réactif.
À n'importe quel moment, et ça tombera d'ici 9h, donc restez bien avec nous. Pour le détail, sachez que si vous écoutez RMC tout au long de la semaine, vous pourrez vous inscrire et vendredi, l'un ou l'une d'entre vous sera sur RMC pour ouvrir ce coffre. Si vous êtes sélectionné, vous allez repartir avec la somme de 2500 euros. Mais vous pouvez aussi remettre en jeu ces 2500 euros pour gagner soit un séjour, de belles vacances, soit 30 000 euros.
Ça, c'est risqué, hein.
Mais c'est pour les joueurs. C'est quand même pas mal. Coffre au 7-32-16. Retenez bien ce numéro. Allez, soyez les bienvenus. 6h10, on est donc ensemble jusqu'à 9h. Tous vos rendez-vous d'ici 6h30. D'ailleurs, d'abord, le coup de main conso, Marguerite.
Les écoles de formation de coiffeurs, de cuistots, ben, ce sont de solutions anti-inflation. C'est pas gratuit, mais presque.
On verra ça tout à l'heure à 6h20. On va s'échauffer aussi avec Anthony Marel pour ce fameux marathon de Paris. Il paraît qu'Anthony a des applis pour nous faire courir sans douleur. Comme si on s'en
J'y
rendait
pas trop.
On verra ça avec lui. Avant ça, on va bien se marrer avec toute l'équipe. Les plus belles histoires de la presse du jour, c'est dans une minute. À tout de suite.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Allez, excellent réveil. 6h11, on se réveille en douceur. Presque avec Anthony Morel et son marathon. L'effort, c'est dans 2-3 minutes. D'abord, on commence par le réconfort. Vos histoires du week-end.
Les histoires du week-end.
Toute la bande nous a rejoints pour partager avec vous les meilleures histoires du week-end. Peggy, Stéphane et Amandine, notre productrice. Bienvenue, Amandine.
Merci, bonjour à toutes et à tous.
Peggy, on va parler de chance avec vous. Vous avez retrouvé l'homme le plus chanceux du monde.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors écoutez bien, selon les spécialistes, la chance de gagner 2 millions de dollars, on est aux États-Unis, à un jeu est de 1 sur 1 500 000. Donc vous imaginez,
mais oui, effectivement, au niveau statistique, faut quand même y aller.
On est loin, faut y aller. Mais pour participer, il faut Jouer, oui. Merci de suivre.
Eh oui.
Alors, pour Faris Franck, un Américain de 41 ans vivant à Advance en Caroline du Nord, ce n'est pas juste de la chance. Moi, j'appelle ça la baraka, la providence, comme vous voulez. Il est carrément tombé dans la marmite, je pense. Je vous explique. Il était sur la route du boulot. Il décide de jouer 20 dollars au Diamonds Dazzler. C'est leur loterie là-bas. Difficile à dire. Yes. Et là, bingo! Il remporte 2 millions de dollars.
Ah ouais, c'est le jackpot.
C'était au mois de mars, là, il y a quelques jours.
20 dollars misés, 2 millions récoltés.
Ah, le retour sur investissement.
Mais c'est ça. Super retour sur investissement, tout va bien. Alors, il dit avoir été en état de choc. Tu m'étonnes. Parce que 2 millions de dollars, c'est déjà une somme importante.
Qu'est-ce qu'il en a fait?
Mais surtout, attendez, ce n'est pas la première fois qu'il gagne, le garçon.
Non.
Il y a moins de 2 ans, il a déjà remporté un jackpot de 1 million de dollars en jouant à un autre jeu de la même loterie.
Ça fait 3 millions.
Voilà, 3 millions en 2 ans, même pas 2 ans. Moi, je dis bingo. Alors, pour annoncer la nouvelle, il y a quelques jours, à sa femme, il l'a appelée en disant juste « Chérie, j'ai recommencé. » À ce stade-là, il peut recommencer autant de fois qu'il veut. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire avec la somme? Vous avez demandé, Stéphane, il va partir en vacances, juste. Moi, je pense qu'il peut partir en vacances à vie.
Oui, un peu plus.
Moi, j'ai plein de bonnes idées pour lui. Est-ce que vous aussi, vous rêvez régulièrement, si vous gagnez au loto, de ce que vous allez faire? Moi, souvent, ça me plonge dans des pensées infinies.
Tous les matins en me réveillant, moi, je dis, qu'est-ce que ce serait bien. Chérie, je vais recommencer.
Chérie, j'ai recommencé. J'adore. Chérie, j'ai recommencé.
Très mystérieux, ouais.
Mais chérie, recommence autant que tu veux. Voilà.
Heureux au jeu, tout ça.
Voilà.
On les connaît, ceux qui gagnent 3 millions en moins de 2 ans. Stéphane Jeunesse, parlons d'un acteur français, l'acteur François Civil. Un gros menteur ?
Non, pas un gros menteur. Il raconte quelques petits bobards parfois, mais on l'aime quand. Est-ce que vous avez déjà menti lors d'un entretien d'embauche ? Est-ce que vous avez déjà bidouillé votre CV ?
Jamais.
Non, jamais. Non, moi je ne sais pas faire ça.
Moi non plus. C'est pour ça que je suis là ce matin d'ailleurs.
On est tous très honnêtes autour de cette table.
Parce que François Civil, vous savez, il a un peu fait pareil. Le film Les Trois Mousquetaires, il sort mercredi en salle. Mais avant, évidemment, il faut passer un casting, il faut rencontrer le producteur, toute l'équipe. Eh bien, François Civil, il était invité de l'émission C'est à vous vendredi soir et il a expliqué un peu les coulisses du casting et en tout cas le choix du rôle qu'il a eu parce qu'il a décroché le rôle de D'Artagnan. Figurez-vous qu'il a rencontré le producteur, il savait qu'il allait parler des mousquetaires, qu'il y avait un film en préparation, Pata Coussin. Il arrive devant le producteur, petite moustache façon D'Artagnan, petit bouc, il s'est fait un petit catogan, voilà, déjà le monsieur propre sur lui, prêt dans la peau de D'Artagnan. Mieux encore, il a fait croire au producteur qu'il adorait les Trois Mousquetaires, qu'il connaissait par cœur le rôle de D'Artagnan, Athos et tous les compagnons, thèse, absolument, qu'il avait lu le livre, que c'était son bouquin sur la table de chevet. Or, que nenni, il n'avait pas du tout lu le livre, et pire encore, c'est que la veille, il avait téléchargé sur son téléphone le livre audio, qu'il a écouté en accéléré.
Toujours pratique.
Il a écouté en accéléré x2, pour arriver dans le producteur et dire, eh voilà tonton, je connais le bouquin par cœur, alors que pas du tout. Résultat, il décroche le rôle du film, et pas n'importe quel, le premier rôle D'Artagnan, voilà, François Civil.
Il est malin,
un petit mensonge.
Et faut être bon comédien quand même.
De dire qu'il avait été malhonnête.
Voilà, mais évidemment, quand on décroche le rôle derrière, on peut tout dire. Hein.
Bah, on peut s'en vanter même.
Qu'est-ce que vous avez dit? Que nenni?
Que nenni.
Vous savez que c'est interdit depuis 1800 et quelques.
C'est pour ça que c'est dans le contexte des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas.
Oui, ça passait bien. Moi, je suis Jean Stéphane. On va parler cuisine maintenant, après les Trois Mousquetaires, la loterie, avec vous, Amandine, parce qu'il y a un petit séisme quand même dans la gastronomie. Moi-même, je suis assez choquée. Les pâtes à la carbonara ne seraient pas italiennes, mais américaines.
Et c'est une attaque surréaliste pour l'association agricole italienne Coldiretti. Alors, ce qui scandalise les Italiens, c'est un article dans le Financial Times, le journal britannique, dans lequel on apprend que la première recette de pâtes carbo a été publiée dans un livre américain en 1952. Et surtout, le chef qui l'a popularisé, installé à Chicago, est né aux États-Unis. Bon, de parents italiens, certes. Hein.
Mais il est né
aux États-Unis, donc il est américain. Et ça fait dire à la journaliste gastronomique italienne Eleonora Cozzella que cette recette est en fait une combinaison entre le génie italien et les ressources américaines. Bon, elle a trouvé un petit compromis pour apaiser le débat parce que les Italiens étaient quand même très tendus. Et on peut faire confiance quand même à cette journaliste parce que elle couvre chaque année la journée de la carbonara. D'ailleurs, c'est jeudi prochain.
Jeudi 6 avril.
Voilà, et l'occasion quand même d'ouvrir un autre débat. Pour vous, les pâtes carbo, c'est avec ou sans crème fraîche?
Parce qu'il n'y a pas de débat.
Bah, c'est quoi?
C'est sans crème fraîche, mais moi je préfère avec.
Mais c'est avec crème fraîche.
Mais non. Non, c'est 100, mais moi je préfère.
Ça aller. Dépend. Moi, ma grand-mère, elle fait ça.
Ah oui, d'accord. Non, mais ne dites jamais en oui. italien.
Non, mais c'est meilleur avec.
Ben voilà, très bien.
Ils nous ont volé nos fromages.
Mais oui. Guanciale.
Pardon.
Parmesan.
Pardon.
Bah, guanciale, les vrais lardons, quoi.
Ah, ok, ok. Monsieur
on est sur un spécialiste.
Mais alors là, on va y aller, carrément. Guanciale. Parmigiano.
Oula.
Et puis, du jaune d'œuf.
Voilà. Oui, classique.
Les jaunes d'œuf en italien, Mathieu, du coup.
Ça, je sais pas. vous débrouillez. Vous mélangez avec l'eau de cuisson des pâtes.
Mmh. Exactement. Ça. Et ça fait une petite texture.
Mais on y est, là. C'est la Dolce Vita avec Mathieu.
Bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois pour ces belles histoires du week-end. On est donc ensemble jusqu'à 9h. Restez bien sur RMC. Maintenant qu'on a bien mangé les carbos, c'est bon. On peut courir le marathon. Et c'est avec Anthony Morel.
Final week-end. C'est déjà demain.
Bonjour Anthony.
Bonjour Marguerite, bonjour Mathieu.
52 000 coureurs vont prendre le départ du marathon de Paris, c'est tout à l'heure.
Ça va peut-être motiver certains de ceux qui nous écoutent à faire un petit footing ce matin. Pas toujours facile de s'y mettre, vous en savez quelque chose Anthony. Vous avez quelques solutions pour nous transformer en runners aguerris comme vous.
Mais exactement, il y a plein d'objets connectés, d'applications qui vont, j'allais dire, transformer la course en un jeu, presque en un jeu vidéo. Vous faire oublier que vous êtes en train de suer à grosses gouttes. En gros, c'est un peu ça. Alors en plus, c'est bien déjà, de l'incontournable Strava bien connu des coureurs, qui est un réseau social qui permet voilà, de mettre son footing ou sa course cycliste,
on
de la comparer.
Sa carte en disant voilà. Regardez comme j'ai bien couru ce matin.
Exactement, on envoie des commentaires aux copains coureurs et tout, ça permet de se motiver, c'est pas mal. Mais il y en a d'autres, je vous en propose deux. La première, c'est l'option coureur du dimanche en mode balade. Ça s'appelle Joux, J-O-O-K-S, qui mélange course à pied et tourisme ou visite culturelle. On choisit un parcours, on met les écouteurs dans les oreilles et l'application va vous guider et vous faire croiser des points d'intérêt à proximité. Vous allez avoir des messages audio qui se déclenchent d'une trentaine de secondes sur un monument que vous croisez, un site historique. Donc ça, c'est sympa, surtout si vous courez dans une ville que vous ne connaissez pas. Deuxième option pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vers la compétition, moi c'est une de mes applis préférées, c'est Run Motion Coach, qui a été créé par des passionnés d'athlètes et qui vous propose des plans d'entraînement sur mesure. Alors ça peut être pour courir son premier 10 km ou faire un marathon en moins de 3 heures, hein. Évidemment c'est adaptable.
5 minutes, ça existe ou pas?
Alors ça peut, non vraiment, toutes les options sont ouvertes.
C'est ce qui me convient.
Non mais c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que vraiment on commence vraiment avec les tout débutants et on peut aller vraiment jusqu'à du coureur très très confirmé et vous allez avoir des conseils personnalisés via un chatbot, un robot conversationnel. C'est très très bien
et
fait.
Ça, ça et ça vous plaît?
Ah j'adore, moi
ça
j'adore.
Ça m'aurait étonné. Ce qui est bien, c'est de ne pas se blesser. Ça aussi, ça vous connaît, mon cher Anthony Morel. Comment va la cheville?
Ça va mieux.
Des applications pour ne pas se blesser.
Oui, j'aurais bien aimé les connaître avant d'ailleurs. La course à pied, ouais, c'est un sport traumatisant évidemment. Alors souvent, on court mal. La forme de la course n'est pas idéale, trop sur la pointe des pieds, trop sur le talon, etc. Alors on peut faire une analyse posturale chez un podologue. Enfin, c'est un petit peu contraignant. Là, il y a une application qui s'appelle Ochi, O-C-H-Y, application rennaise, qui veut y remédier grâce à l'intelligence artificielle. Vous tournez une petite vidéo avec votre smartphone et l'IA va détecter tout ce qui ne va pas dans votre course et vous donner des conseils pour mieux courir.
Et vous engueuler.
Vous allez vous faire enguirlander par une application, mais ça, il n'y a pas de souci. Si ça permet d'éviter une déchirure au mollet, je vais vous dire, c'est carrément valable.
Et si toutes ces applis ne suffisent pas, on fait quoi, Anthony?
Eh ben, on achète des chaussettes connectées. Ah. Voilà, c'est la dernière option que je vous propose, capable de vous donner des conseils sur. Alors là aussi, de vous enguirlander par les chaussettes.
Ouais,
hein,
elles doivent être belles, les chaussettes.
Très sympa. Sensoria, chaussettes intelligentes. Et là, c'est carrément à l'intérieur du tissu que vous allez avoir des capteurs qui analysent, là encore, la façon dont vous courez et qui vont, via une application, vous donner un certain nombre d'applications.
Et les anti-pus des pieds ou pas?
Alors, il faut quand même les laver à un moment. Hein, mais même avec l'électronique, il faut enlever, en fait, il y a des petits capteurs électroniques, on peut les enlever et ensuite ça passe à la machine, il n'y a aucun problème.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Anti-pus des pieds, oui, Marguerite. C'est vrai que ça peut servir.
Ça peut servir.
Pour les marathoniens aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, un gros bisou, un gros encouragement à deux membres d'RMC ce matin qui vont courir le marathon. Mao Becker-Granier et Romain Cluzel.
Nos deux marathoniens qui on souhaite énormément de courage. Hein. On a hâte qu'ils nous racontent. Ils sont sans doute sur la ligne du départ, là. Non, peut-être pas encore.
Je sais pas s'ils seront là demain. En tout cas, ils sont sur la ligne de départ. Je fais un gros bisou aussi à Thierry et à François Thibault, qui courent aussi le marathon.
C'est des dédicaces voilà. personnelles,
ouais, exactement.
Ah bah, très bien.
Si vous voulez en passer, n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Allez, 6h21.
À suivre dans la matinale week-end.
Des menus gastronomiques, des coiffeurs, des massages à tout petit prix. Oui, ça existe.
Et on va voir ça dans votre coup de main conso dans une minute. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
6h22 sur RMC, soyez les bienvenus. On va vous emmener vous détendre, vous faire plaisir à petit prix.
RMC, le coup de main conso.
Chaque matin, ce petit coup de main pour moins, pour mieux dépenser. Marguerite, vous allez nous couper les cheveux en quatre ce matin, mais sans prise de tête, sans crépage de chignon, c'est promis. Vous avez une solution pour continuer d'aller chez le coiffeur à petit prix.
Tout d'abord, vous avez une idée du budget coiffure pour les hommes et les femmes ?
Les hommes, c'est quoi ? C'est 20 euros en moyenne, non ? C'est ça ?
C'est 24 euros pour les hommes et 46 euros pour les femmes, selon l'Union nationale des entreprises de coiffeurs. C'est quand même un petit budget bien conséquent. Et ben, je vous propose ce matin la même chose pour 10 euros. Je vous emmène dans des centres de formation. Non, on ne va pas reprendre ces études, rassurez-vous. On va profiter de ces lieux qui proposent des prix imbattables. Des coiffeurs juniors ou confirmés d'ailleurs qui veulent se spécialiser vont vous coiffer, supervisés par un prof comme Julien Sureau-Paréral, formateur pour l'atelier Intermed à Paris.
On est à côté des stagiaires, on leur fait justement comprendre pourquoi ils vont faire tel gestuel pour telle coupe. On n'a jamais eu de catastrophe, loin de là.
Pas de coup de ciseaux qui dérape, une prise de risque limitée et 15 euros d'économie minimum. Vous avez la même chose dans des centres de formation esthétique pour une fourchette de prix entre 5 et 35 euros selon les soins que vous choisissez. Il y en a partout en France, vous faites une petite recherche Google, c'est très simple. Prêt à jouer les cobayes ?
À ce prix-là, je dis pourquoi pas. Et pour les restos, je dis je veux la même chose. Bah, ça tombe bien parce que les étudiants restaurateurs sont aussi là pour nous servir.
Dans les écoles hôtelières, au fourneau, en salle des apprentis, moyenne d'âge 20 ans, vous aurez le choix entre des menus gourmets, voire gastronomiques. J'ai rencontré Paul Alain. Il est agent d'accueil, un adepte de la bonne bouffe avec un petit budget. Et il se fait ce petit plaisir une fois tous les trois mois au lycée professionnel Guillaume Tirel. C'est dans le 14e arrondissement de la capitale, avec une qualité digne d'un grand restaurant.
J'en ai eu pour 26 euros. Alors j'ai pris un croquant de chèvre, une crème de moule au safran, un civet de lapin avec des petits légumes oubliés, un mi-cuit chocolat, franchement digne d'un grand restaurant.
Et des prix qui ne coupent pas l'appétit. Minimum 30 euros d'économie. Vous pouvez réserver sur les sites de ces restaurants dits d'application.
Et on vous en parle bien sûr dans ce contexte d'inflation galopante encore et toujours. Marguerite, est-ce que les Français ont beaucoup rogné sur ces budgets loisirs ?
Finalement, on a continué à se faire plaisir en 2022. Les dépenses dans les restaurants ont progressé de 44% par rapport à 2019. Un rebond évidemment lié au ralentissement du Covid. C'est une étude du groupe bancaire BPCE. Par contre, pour le bien-être, les professionnels n'ont toujours pas retrouvé les niveaux de fréquentation d'avant l'épidémie. Là, c'est plus compliqué.
Si vous êtes restaurateur, d'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner ce matin au 32-16. Merci Marguerite pour votre coup de main conso. 6h25, c'est l'heure de parier sur RMC.
La matinale week-end.
Les paris RMC.
La cote du jour, celle qu'il ne faut pas rater pour les parieurs qui se lèvent tôt avec Roland Courbis. Bonjour Roland.
Salut Marguerite, salut Mathieu et salut à tous.
Salut Roland, 29e journée de Ligue 1 qui se poursuit. 20h45 ce soir, PSG Lyon. Allez, je donne les cotes. 1,42 la victoire du PSG, 5,30 le nul, 6,50 la victoire de Lyon.
Alors coach, qu'est-ce que tu en penses ?
Eh bien voilà, une 29e journée qui se terminera par ce Paris Saint-Germain-Lyon, avec Lyon qui doit logiquement avoir la tête à la demi-finale de cette Coupe de France, mais jouer le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour un dénommé Laurent Blanc, c'est pas un match comme les autres. Bon, alors, on va voir un petit peu ce qui se sera passé dans cette coupure internationale. J'envisagerai deux situations, un Paris Saint-Germain classique avec but d'Mbappé, donc victoire du Paris Saint-Germain, but d'Mbappé, une cote à 1,82 où on double pratiquement la mise. Et après, eh bien, on va s'amuser à trois scores puisque je pense que le Paris Saint-Germain prend régulièrement un but. Je choisis le 1-1, 2-1, 3-1 pour le Paris Saint-Germain avec but d'Mbappé, ça fait quand même une cote à 520.
Eh ben ça on prend, merci beaucoup coach Courbis qu'on retrouve tout à l'heure, les Paris RMC à midi avec toute la Dream Team.
Et dans quelques minutes il est 6h30 avec à la une du journal sur RMC en pleine polémique sur la gestion du maintien de l'ordre, la riposte de Gérald Darmanin qui réplique ce matin dans le journal du dimanche.
Et puis faut-il faire évoluer la loi sur la fin de vie en France ? C'est aujourd'hui que les citoyens réunis en convention au Conseil économique et social vont présenter leurs travaux finaux après 5 mois de débat. Leurs avis, vous allez l'entendre, ont évolué au cours de ces échanges. Parole de citoyen, reportage à 6h40.
Et vous, êtes-vous pour ou contre une aide active à mourir ? Vos témoignages nous intéressent, votre avis aussi. On en débat vraiment en toute liberté. On sait que c'est des questions intimes, mais on est aussi là pour en discuter sur RMC. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
dimanche 2 avril. Bienvenue à tous.
Il est 6h30.
L'heure d'un tout nouveau journal. Avec vous, Stéphanie Rock, bonjour.
Bonjour à tous. Dans l'actualité, Gérald Darmanin annonce la création d'une cellule anti-ZAD. Les suites de l'enquête sur l'incendie de la mairie de Bordeaux. Trois hommes ont été placés en examen. Et en football, Lens prend la deuxième place du classement général de la Ligue 1 après sa victoire à Rennes.
Fin tout à l'heure de la convention citoyenne sur la fin de vie. Parole de participants à suivre à 6h40.
Juste après le coup de main IMO, le succès des résidences secondaires. Et cela malgré les difficultés. Gérald Darmanin hausse le ton dans une interview accordée au Journal du Dimanche ce matin.
Le ministre de l'Intérieur est revenu sur les accusations de violence policière lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il annonce également la création d'une cellule anti-ZAD après les débordements du week-end dernier à Sainte-Soline. Un ton offensif, Martin Cadoret.
Oui, face aux accusations de violence policière, Gérald Darmanin accuse le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche et met en avant les 36 enquêtes judiciaires lancées par l'IGPN. Quelques dizaines de cas sur 250 000 policiers et gendarmes, note le ministre, alors que 1093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés. Et s'il y a usage de la force, dit-il, c'est pour contrer les attaques extrêmement violentes de casseurs professionnels, ce sont ces mots. 2200 fiches S concerneraient d'ailleurs des militants d'ultra-gauche. Après les affrontements à Sainte-Soline le week-end dernier, le premier flic de France annonce également la création d'une cellule anti-ZAD au sein de son ministère avec des juristes spécialisés. Et après le lancement de la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, le ministre veut faire de même pour un deuxième mouvement à Rennes. Enfin, sur un volet plus politique, Gérald Darmanin appelle les LR à soutenir la politique du gouvernement, quitte à co-construire avec eux le projet de loi reporté sur l'immigration.
Merci Martin Cadoret pour ces précisions. La réforme des retraites au programme, justement, du calendrier de l'exécutif. Elisabeth Borne va entamer une semaine de négociations avec les partis politiques et les syndicats avant une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Invitation déclinée par Europe Écologie Les Verts qui ne souhaitent pas participer à l'exercice de communication, fin de citation. En revanche, les Verts se rendront bien à Matignon, mais pour parler maintien de l'ordre, Sandrine Rousseau, la députée de Paris qui était l'invitée de BFM TV hier soir, demande l'organisation d'une mission d'enquête.
Et justement, dans ce contexte, l'enquête après l'incendie de la mairie de Bordeaux se poursuit.
C'était le 23 mars dernier, en marge des manifestations contre la réforme des retraites. La porte de la mairie en proie aux flammes. Trois personnes viennent d'être mises en examen. Kevin Gassard.
Oui, le premier suspect a été mis en examen pour dégradation de biens publics par substance incendiaire et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Cet homme de 37 ans a été placé en détention provisoire. Il a déjà fait l'objet de 21 condamnations, dont 2 pour des dégradations de biens publics. Les deux autres suspects sont âgés de 25 et 19 ans, eux uniquement mis en examen pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel de cette décision. Pendant une quinzaine de minutes, ce 23 mars, la porte massive en bois de la mairie de Bordeaux avait brûlé avant que les pompiers n'éteignent le feu. Un préjudice estimé à 3 millions d'euros.
Et puis des incendies de végétation, cette fois dans le sud de la France, sur les hauteurs de Nice. Une trentaine d'hectares sont partis en fumée en quelques heures. Des départs de feu sur les communes de Nice, de Saint-Auban et de Tende, près de la frontière italienne en fin de soirée. Ces incendies étaient tous fixés.
6h33 sur RMC, les Parisiens appelés aux urnes aujourd'hui.
Pour répondre à cette question qui crée souvent la polémique dans les rues de la capitale, alors est-ce que vous êtes pour ou contre les trottinettes électriques? Début du vote dès 9h dans vos bureaux habituels. Mais notre reporter Romain Clavelou a anticipé, il est allé vous poser la question.
Comme à chaque fois qu'elle se balade dans les rues de Paris, Lise et sa mère Caroline ont la même réflexion. Elles ne veulent plus voir de trottinettes électriques.
Ça fout la merde dans toute la circulation et c'est dangereux et les gens les utilisent mal.
Je trouve ça dangereux pour les piétons.
Ces critiques, Eric, lui aussi parisien, les comprend. Pour lui, qui n'a rien contre ces trottinettes électriques, la solution pourrait être l'instauration de mesures plus contraignantes.
Peut-être limiter la limitation de vitesse des trottinettes.
Ces limitations de vitesse ont déjà été réduites en juillet 2019. Pourtant, il y a toujours autant d'accidents, selon David Béliard. Pour l'adjoint à la mairie de Paris en charge des transports et des mobilités, la suppression des trottinettes électriques aura également un effet écologique positif.
75% des utilisateurs de trottinettes utiliseraient soit le bus ou les transports en commun, soit le vélo. Et ces trois modes de transport qui sont décarbonés, propres, verts.
Les résultats du vote seront dévoilés aux alentours de 22h.
Les opérateurs de trottinettes qui ont, eux, de la suite dans les idées, ils vous proposent un trajet gratuit aujourd'hui avec le code JEVOTE. Depuis les applications, reste à savoir si les Parisiens seront sensibles ou pas.
6h34 sur RMC, place au sport avec de la Ligue 1. Lens reprend la deuxième place à l'Olympique de Marseille.
C'est la bonne opération de la soirée. Les nordistes sont allés s'imposer 1-0 à Rennes et ils profitent donc du match nul de Marseille de vendredi contre Montpellier pour prendre la place de Dauphin. Thierry Grimaud.
Oui, l'entraîneur lensois l'avait enfin dit haut et fort avant le match. Lens veut aller chercher l'Europe. Des paroles aux actes hier soir après un match où les 100 et or ont largement dominé les Rennais en première mi-temps, ouvrant le score par Openda avant de gérer sans trembler Francaise.
Quand on se bat avec les plus gros, il faut toujours marquer les esprits. C'était un lieu important parce que c'est une des grosses équipes de championnat. Il fallait faire un gros match, c'est ce qu'on a réussi.
Lens n'a plus été deuxième depuis deux mois. Les Lensois se détachent avec l'OM pour la Ligue des Champions. Les deux équipes y seront selon le battu du soir, l'entraîneur rennais Bruno Genesio.
À mon avis, Paris sera champion et ensuite je pense que Marseille et Lens sont les deux équipes les mieux armées pour la deuxième place parce que ce sont des équipes solides.
Alors la Ligue des Champions, mot tabou dans le vestiaire, la réponse de Florian Sotoca.
Non, on est ambitieux, voilà, on veut finir le plus haut possible. S'il y a 3-4 journées de la fin, on est toujours dans les places européennes et surtout de la Ligue des Champions. On ne va pas s'en priver, on ne va pas se prendre la tête avec ça. On reste encore 9 matchs pour viser le plus haut possible.
Et avec leur niveau actuel, les Lensois peuvent continuer de regarder tout en haut.
Dans l'autre match de la soirée, duel de mal classés entre Auxerre et Troyes, victoire 1-0 auxerroises. À suivre aujourd'hui la suite de cette 29e journée de Ligue 1, 7 matchs au programme, Lille-Lorient, Monaco-Strasbourg ou encore Paris qui recevra Lyon à 20h45 au Parc des Princes.
En rugby, week-end de Coupe d'Europe au programme, La Rochelle s'impose en attendant Montpellier et Toulouse aujourd'hui.
Une victoire au forceps à domicile 29-26 pour La Rochelle face aux Anglais de Gloucester. Les tenants du titre seront bien au rendez-vous des quarts et c'est au tour de Montpellier face aux Anglais d'Exeter des 13h30 et Toulouse qui sera opposée à la franchise sud-africaine des Bulls. Les Toulousains qui enregistrent le retour des internationaux après la parenthèse destination. L'occasion de retrouver sur la pelouse du stadium un homme qui a été étincelant avec les Bleus, Thibaut Flamand, le deuxième ligne. Un retour très très attendu. Wilfried Templier.
Oui, le statut de cadre de l'équipe qu'il a montré chez les Bleus, même si, comme le dit Romain Ntamack à Toulouse...
Je sais pas si on parle de statut chez nous.
Avant de reconnaître l'impressionnant niveau affiché par son coéquipier.
Il a, je pense, pris lui, individuellement, une autre dimension. Il a pris encore plus confiance en lui. Donc voilà, tout le monde est heureux de voir sa progression. Et tout ce qu'il arrive à faire est bénéfique pour lui, mais aussi est bénéfique pour nous.
Et sa panoplie est large. 3 essais marqués, 2e meilleur plaqueur, 3e preneur de balle en touche. Flamand a rayonné dans le tournoi destination. Logique, selon l'entraîneur des avants à Toulouse, Jean Bouilloux.
C'est un joueur qui absorbe énormément d'informations et qui est capable de le restituer assez rapidement sur le terrain, d'où cette montée en compétences assez fulgurante depuis quelques saisons et je pense qu'il n'a pas fini encore de nous étonner.
Reste l'exigence toulousaine, parfois blessé cette saison, Flamand a paradoxalement plus joué en bleu qu'à Toulouse, souligne le manager Hugo Mola.
Bien sûr que Thibaut réalise un tournoi incroyable, mais ça ne vous a pas échappé aussi que Thibaut n'avait joué que 4 fois avec nous ou 5 fois. Donc on attend beaucoup de Thibaut au club.
Et ça commence aujourd'hui face aux Bulls.
8e de finale donc de cette Coupe des Champions, ça sera à vivre en direct sur RMC dès 16h.
Et puis on termine avec du cyclisme, cette saison, les classiques.
Et ce sont les Flandres qui se dressent aujourd'hui devant le peloton. Un peloton emmené par la Jumbo Visma, l'équipe néerlandaise qui semble intouchable encore cette saison. Arnaud Souk.
Oui, avec 5 victoires sur les 6 classiques flandriennes courues cette année, la Jumbo Visma impressionne, notamment le double champion du monde, Julien Alaphilippe.
Ils ont un collectif vraiment incroyable, et ils ont une façon de courir agressive, ils sont tous très forts. Je pense qu'ils surfent sur la vague, quand tu gagnes, ça motive tout le monde et la course d'après t'es encore plus motivé et t'as pas envie de perdre et t'es un peu transcendé.
Alors pas question pour autant pour les adversaires de partir battus d'avance. Valentin Madouas, 3e l'an passé du Tour des Flandres et outsider ce dimanche.
Ça fait pas peur de les affronter, faut pas se mettre de barrière là-dessus parce qu'on sait qu'ils vont être très présents et malheureusement on devra faire avec ça.
Et se démarquer donc pour essayer de tirer son épingle du jeu face aux ogres Van Aert, Laporte et autres tiges benoutes. Mais le jeune Breton y croit.
Il va falloir être hyper attentif à leurs mouvements, voir anticiper pour avoir le petit coup d'avance et arriver avec eux. Et dans les 15 derniers kilomètres sur le plat, il y a peut-être des opportunités et ça se trouve dans une grande journée et eux seront dans une moins bonne.
Et l'adversaire numéro 1 des Jumbo Visma ce dimanche est un feu-follet néerlandais tenant du titre et double vainqueur dans les Flandres, un certain Mathieu Van Der Poel.
C'était Arnaud Souk, RMC Sport, dans le journal de Stéphane Hirok. Il est 6h39, soyez les bienvenus.
Et c'est l'heure de filer sur les hippodromes.
La matinale week-end.
Les courses RMC.
La Dream Team des courses RMC et son dernier bruit avant le quintet.
Bonjour Frédéric Kita.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite, bonjour à tous.
Où sommes-nous aujourd'hui? Ah bah Auteuil,
à Auteuil,
15h15.
15h15 pour un quintet de prestige, c'est le prix du président de la République. C'est un groupe 3 disputé sur le steeplechase et la très longue distance de 4700 mètres.
Prix du président de la République, pas d'Emmanuel Macron en particulier.
Non, c'est du président de la République. Donc, il y a tous les ans, sur l'hippodrome d'Auteuil, il y a ce prix du président de la République qui a lieu à peu près au mois d'avril.
très prestigieux.
Et au trot, on a également un prix du président de la République, mais c'est plutôt le dernier dimanche du mois de juin. Voilà.
Et quel est votre dernier bruit?
Le dernier bruit dans cette course qui est très très difficile parce qu'il y a déjà 18 partants. Et ce dernier bruit sera le numéro 3, Motu Faréon, un concurrent qui se plaît sur le steeplechase d'Auteuil puisqu'il a déjà gagné deux fois et pris une deuxième place en trois tentatives. Et logiquement, si tout se passe bien, il devrait prendre une part active à l'arrivée.
Numéro 3, c'est bien noté. Un petit deuxième choix.
Le numéro 8, Echo de Chandou, un concurrent qui vient d'effectuer une plaisante rentrée dans la course de référence et qui a déjà l'avantage d'avoir couru sur ce parcours et d'y avoir terminé deuxième l'automne dernier. Donc lui aussi devrait jouer un rôle intéressant.
Merci beaucoup Frédéric Kita, tous les pronostics sur rmc.fr. Tiens, précision importante ce matin, le numéro 4 est non partant pour le quintet du jour.
Il est 6h40 sur RMC et on est tous ensemble dans la matinale week-end. On partage des moments, des bons moments, des moments forts, tous ensemble avec vous, avec Philippe qui a composé le 32-16 ce matin. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Salut Philippe.
Vous êtes debout bientôt Philippe ce matin, dis donc.
Oui, je travaille.
Ah, vous faites quoi dans la vie?
Infirmier libéral.
Ah, infirmier libéral, beau métier et très difficile, on le sait bien ici sur RMC, on a souvent vos témoignages. Philippe, je crois que vous aviez envie de passer un petit message ce matin, un petit message pour quelqu'un qui vous est cher.
Ouais, exactement, parce que je suis aussi en reconversion de préparateur mental et je fais un DU à Clermont-Ferrand et j'ai ma collègue Karine qui prépare qui est en partance pour le marathon de Paris ce matin. Oh. Il s'est mis un objectif de 3h10, 3h15.
Oh, bel objectif.
Ouais.
Ouais, donc elle va partir dans une heure, là, hein, c'est ouais, ça, ça part à 8h.
8h16, elle m'a annoncé.
Ouais.
Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour elle. Je sens qu'elle va le faire, je suis persuadé, elle a la mentale de championne.
Vous avez des nouvelles, là, toutes récentes, vous avez échangé par SMS, elle est dans quel état d'esprit, là, sur la...
J'ai envoyé un petit message, là, il y a une demi-heure, et là, ça y est, elle m'a envoyé une petite photo à l'instant de sa tenue en tenue, elle est prête, elle est à fond.
Donc, en plus, je crois que le temps va être assez clément aujourd'hui, non?
Ouais, je sais pas trop, j'ai pas.
Bon, je crois que ça va aller. Donc,
regarder, mais en tout cas,
les conditions sont plutôt favorables.
Ouais. Elle
elle a un mental qui peu importe le temps, je pense que de toute façon, elle va le faire.
Il paraît que c'est ça qui compte. Après le 20e kilomètre, c'est plus les jambes, c'est le mental. Gros bisous à Karine. Vous avez bien fait de passer ce petit message ce matin.
Et vous nous tenez au courant du chrono, Philippe?
Ça marche.
Et la photo de Karine là, que vous avez reçue, envoyez-la nous aussi sur Facebook.
Ah okay, oui, on veut voir Karine.
On va tous les encourager grâce à vous. Le marathon de Paris qui s'élance dans une heure. Salut Philippe.
Ouais. Salut et bon courage pour la journée de boulot.
Et à tous ceux qui bossent.
À bientôt Philippe. 6h42 sur RMC, un tout autre sujet maintenant. Est-ce qu'il faut autoriser en France une aide active à mourir? C'est aujourd'hui que la Convention citoyenne sur la fin de vie va rendre ses travaux. 184 Français qui ont débattu pendant plusieurs mois. Et leurs avis ont beaucoup changé au fil des discussions. On va l'entendre dans le reportage de la rédaction.
Et on attend les vôtres ce matin. Faut-il autoriser l'euthanasie ou le suicide assisté en France? Vos appels au 32-16. On se retrouve dans une minute sur RMC. À tout de suite.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
6h44, soyez les bienvenus dans la matinale d'RMC. Toute la bande est là pour vous accueillir. On est là avec Mathieu pour vous accompagner, pour vous informer et pour débattre, bien sûr.
Vous écoutez au sujet de l'actualité. Aujourd'hui, 184 Français qui ont été tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne sur la fin de vie vont se réunir pour la dernière fois après 4 mois de débat.
Les conclusions de leurs échanges seront publiées à midi. 63 propositions qu'ils soumettent dans la foulée à la première ministre Elisabeth Borne avant d'être reçues demain lundi à l'Élysée et par Emmanuel Macron cette fois-ci.
On sait déjà que les trois quarts de ces citoyens sont favorables à une ouverture de l'aide active à mourir en France. Reste à savoir dans quelles conditions. Les conditions d'accès à cette euthanasie, à ce suicide assisté ont été au cœur de longues discussions au cours desquelles, vous allez l'entendre, les avis des uns et des autres ont beaucoup changé. Le reportage de la rédaction d'RMC est signé ce matin, Ameline Lafchin.
Lorsque Jean-Claude participe à la première session il y a 4 mois, le retraité défend la liberté de chacun. Désormais, il s'oppose fermement au suicide assisté.
Je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des dérives très importantes en ce qui concerne le suicide assisté. Qu'il y ait une exagération à ce niveau-là, quoi, que n'importe qui, ben, il y en a marre de la vie, allez, je vais à un suicide.
Et il n'est pas le seul à avoir changé d'avis au fil des séances et des interventions. Rella, elle aussi, est passée du pour au contre, notamment lorsqu'elle en apprend davantage sur la loi Claeys-Leonetti, permettant aux patients d'établir des directives avant leur mort.
Je me suis aperçue qu'en fait, elle n'était pas suffisamment impliquée. On ne peut pas dire qu'elle soit arrivée au bout des moyens qui nous sont proposés dans ce cas-là. Si elle était très très bien faite, ça devrait suffire. Et que pour les douleurs réfractaires ou les choses comme ça, j'espère que la science va faire des progrès.
À l'inverse, Didier François, agent de sécurité, se montrait lui plutôt réticent.
C'est au fur et à mesure de discuter avec les autres, de voir ce qui se passait, des rencontres, les votes en hémicycle, enfin tout, les groupes aussi, qui m'a fait changer ma vie.
Profondément marqué par la mort de son ex-femme décédée d'un cancer généralisé, se donner volontairement la mort lui semblait inimaginable.
Avec le recul, je laisserai laisser partir. Parce qu'elle est partie dans les souffrances. Si elle aurait pu éviter tout ça, si ce qu'on appelait maintenant pouvait arriver bien avant.
Yaël aussi s'est ravisé. Au départ contre, il réalise désormais l'intérêt que cela pourrait avoir.
Il y a une utilité parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont en souffrance réfractaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas abréger leur souffrance avec tout ce que le monde actuel peut leur apporter. Et en fait, c'est un peu inhumain, si leur choix est réfléchi et qu'ils ont cheminé correctement, de leur refuser un accès à une mort en gros douce, entre guillemets. Mais aujourd'hui, avec le système actuel, je ne pense pas qu'on a les moyens de garantir ce parcours de cheminement de choix.
Qu'ils soient pour, contre ou qu'ils aient changé d'avis, tous espèrent que le gouvernement tiendra compte de leur travail.
Merci beaucoup, Ameline Lafchin, reportage de la rédaction d'RMC, à retrouver sur notre site rmc.fr.
Et on vous attend ce matin au 32-16 pour témoigner, pour vous emparer de cette question très intime. Quel cadre pour la fin de vie en France? Emmanuel Macron doit-il suivre les recommandations de cette convention citoyenne? Est-ce que vous avez vécu ces situations personnellement, qui sont parfois des grandes situations de souffrance? Vous venez nous raconter au 32-16.
Yannick est avec nous dans le Loiret. Bonjour Yannick.
Bonjour. Bonjour RMC.
Bonjour Yannick. C'est un sujet qui vous a touché de près, Yannick?
Comme toute famille, je pense. J'ai une tante qui est morte du cancer. Et elle s'est accrochée jusqu'à la fin de ses dernières heures à la vie. Et pour elle, il n'en était pas question. Mais quelqu'un comme moi, je suis pour, personnellement. C'est quelque chose d'individuel.
Après avoir vécu cette situation, après l'avoir accompagnée
jusqu'à la fin, voilà.
Vous vous êtes rendu compte, finalement, que si vous vous retrouviez, vous, dans cette même situation, vous aimeriez avoir ce droit?
J'aimerais avoir ce droit qui ne soit pas imposé, que ce soit un droit individuel. En dehors de tout problème religieux, c'est une liberté individuelle, c'est la dernière des libertés.
Et Yannick, justement, sur l'accompagnement, vous qui avez vécu ces situations difficiles, sur l'accompagnement, qu'est-ce qui vous a manqué, justement, quand on est face à un proche qui est très malade, en grande souffrance?
Ce qui est difficile, c'est de voir quelqu'un qui a toujours été très, très raisonné, très intelligent et qui se voit réduit par les traitements, qui se voit perdre la tête. Et c'est soit elle souffre, soit tu souffres et tu as ta tête, soit tu souffres pas et tu sens que tu perds la tête.
Et les médecins,
par les drogues.
Les médecins qui accompagnaient votre tante, que vous avez peut-être rencontrée, ils étaient là pour vous? Comment ça se passait avec eux?
Oh, très bien, c'est des gens formidables. C'est des gens formidables. Mais son cas, elle, c'est pas le mien. Le mien, c'est si moi, je suis à une dernière extrémité, je veux avoir le droit de choisir de vivre ou de mourir. C'est pas que la religion ait son rôle d'accompagnement, mais qu'elle n'ait pas son mot à dire pour m'interdire de mettre fin à mes jours.
Et que chacun ait son libre arbitre sur cette question.
Voilà, c'est le libre arbitre, le droit. Alors, dans certains cas, il faut que, faut pas le généraliser, faut que ça soit réfléchi. Mais ce droit à mourir, que ça soit pas un suicide, que ce soit une mort accompagnée.
Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup, Yannick, pour votre témoignage, votre point de vue ce matin. J'allais dire, on en a tous un. Celui des citoyens qui ont participé à cette grande convention, on a déjà un aperçu, puisque trois quarts d'entre eux, je le disais, se sont prononcés en faveur du suicide assisté. On y reviendra tout à l'heure, 8h40, avec deux de ces citoyens, nos invités du grand entretien Marguerite à 8h40. Et j'aimerais aussi vous poser la question à tous. Est-ce que Emmanuel Macron ferait une faute politique en n'écoutant pas ce que les citoyens ont à lui dire? Parce qu'on a vécu les conventions citoyennes sur le climat notamment. Est-ce que là, Emmanuel Macron doit vraiment prendre en compte tout ce qui vient d'être dit lors de cette convention citoyenne sur la fin de vie? Merci encore Yannick. Il est 6h51, le débat est ouvert. Vous êtes sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Allez, soyez les bienvenus. Vous avez choisi RMC pour vous lever du bon pied en ce dimanche matin. Vous avez bien fait. On va se faire plaisir avec un dessin animé dans un instant pour sensibiliser à l'autisme. C'est le bonus de Peggy Broche dans 2 minutes.
Mais d'abord, le coup de main immo.
Le coup de main immobilier.
Avec les astuces, les bons plans de Marie Cœur de Roi.
Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Bonjour Marie, on va parler de résidence secondaire avec vous avec l'arrivée des beaux jours. On est nombreux à de nouveau rêver d'une belle maison de vacances au bord de la mer.
Sauf
ou à la campagne.
Le contexte, c'est un peu compliqué là en ce moment pour pouvoir acheter, avoir un crédit. La demande reste forte ou pas?
Ben oui, oui. Vous vous souvenez, on avait eu une super ruée vers les résidences secondaires au moment de la crise sanitaire.
Ben oui,
ben oui, entre l'avant-Covid et la période des confinements, la demande en la matière, elle avait explosé de près de 40% selon le courtier Préto. Alors, sauf qu'au printemps dernier, bah, vous le savez, le contexte a changé. Inflation, hausse du coût de la vie au sens large et puis évidemment, conditions d'emprunt qui se sont durcies avec la hausse des taux d'intérêt. Résultat, cette demande, elle s'est un peu calmée, mais pas aussi fortement que ce qu'on aurait pu anticiper. Recul de seulement 10% par rapport justement à nos années 2020-2021. En clair, l'appétit pour la résidence secondaire, il reste meilleur aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Et pour cause, je vous en avais déjà parlé, vous savez, la résidence secondaire, c'est plus vraiment ce que c'était avant en fait. Il y a eu un concept qui est né du Covid, qui est la résidence semi-secondaire, semi-principale.
Oui.
Et c'est aussi pour ça que la demande, elle reste forte.
Donc c'est un renouveau et pas la fin des résidences secondaires. Où est-ce qu'on cherche à s'installer en résidence secondaire?
Alors, les régions les plus recherchées, j'ai pas ma carte de France, mais bon, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, et je vais peut-être casser une idée reçue, en matière de résidence secondaire, j'insiste, et ben ce sont bien les locaux qui font majoritairement le marché. 60% de la demande dans ces régions est ce qu'on appelle de la demande intra-régionale. Alors, il y a une grosse exception quand même, c'est l'Île-de-France. Alors, si la région fait partie des plus recherchées pour les résidences secondaires, cette demande intra-régionale, elle est ultra minoritaire. En gros, 80% des demandes visent des biens en dehors de l'Île-de-France. Les franciliens recherchent en priorité et dans l'ordre la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Ces trois régions, elles concentrent à elles seules pas loin de 35% de la demande de résidence secondaire des franciliens.
Je vote pour la Bretagne. L'appétit et les projets évoluent assez peu. Sauf Marie, que pour concrétiser ces projets-là, la donne a clairement changé.
Ah, je vais pas vous mentir, s'il y a bien une catégorie de projets qui est vraiment pénalisée par le durcissement des conditions d'emprunt, c'est bien l'achat d'une résidence secondaire. Selon le courtier Préto, seuls 30% des demandes sont encore finançables aujourd'hui. Concrètement, 70% des projets sont exclus désormais. Alors au final, ça veut dire que en gros, la moitié des dossiers qui passaient avant le printemps dernier et la hausse des taux ne passent plus. Et pour cause, vous le savez, l'achat de résidence secondaire, c'est un gouffre financier. Et oui, si je compare par exemple à l'investissement local pour lequel vous allez percevoir des loyers en face de votre crédit, là vous n'avez rien. Donc on comprend la frilosité des banques et on voit d'ailleurs que les banques font la différence. Pour les résidences secondaires, la part des demandes non finançables, elle a augmenté de 50% sur un an, alors que pour les autres projets, cette hausse n'est que, je mets de gros guillemets, de 30%. Bon, faut pas perdre espoir non plus, il reste l'option Airbnb, je sais que c'est un peu difficile à entendre, mais bah, quand on met en location son logement, même ponctuellement, ça permet de toucher des revenus et donc un peu de rentabiliser l'opération.
Les explications, les bons plans de Marie Cœur de Roi, c'est tous les samedis et tous les dimanches dans la matinale week-end d'RMC et c'est à retrouver en podcast sur notre application RMC.
Le bonus RMC.
Et c'est avec vous, Peggy Broche, pour la journée de sensibilisation à l'autisme. Un dessin animé s'engage, ça s'appelle Thomas et ses amis, et c'est dans T'es fou sur TF1, c'est diffusé ce matin.
Exactement, une façon de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Ils feront la connaissance de Bruno, un personnage créé avec des scénaristes eux-mêmes atteints de troubles autistiques. Ça s'appelle Les mystères de la montagne du Mirador, un épisode spécial dans lequel la petite locomotive qui donne son nom au programme, parce que Thomas, en fait, c'est une locomotive, fait équipe avec Bruno. Oui, vous connaissez, vous qui avez un petit garçon?
Bah non, pas encore, pas d'écran, attendez.
Ah pardon,
excusez-moi.
Pardon. Alors Bruno, lui, c'est un wagon-frein, presque comme les autres. En fait, il manifeste des troubles du spectre autistique, ce qu'on appelle les TSA. Il faut savoir que ça touche environ 700 000 personnes en France selon l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, avec des problèmes de communication, des altérations des interactions sociales, des troubles du comportement, des réactions sensorielles inhabituelles, autant de particularités en fait que de personnes concernées. Alors Bruno, lui, il est sensible au bruit, il a des difficultés à établir un contact visuel, à participer à une conversation, et dans cet épisode, vous allez voir, il détourne le regard, il secoue ses échelles, il s'isole dans des situations de stress, mais il a un sens de l'observation affûté et le goût du travail bien fait.
Elles en font du bruit toutes ces machines, pas vrai Bruno? Tu n'as pas envie de mettre ton casque de vapeur?
Merci beaucoup Diesel.
La voix de Bruno, le personnage autiste de Thomas et ses amis, le mystère de la montagne du Mirador, épisode spécial d'une heure dans le cadre de la journée mondiale de la sensibilisation de l'autisme ce dimanche 2 avril, diffusée sur TF1 dès 7h dans l'émission T'es fou, c'est dédié aux petits et c'est à retrouver en replay.
Et c'est donc dans 2 minutes.
Exactement.
Et tout bientôt.
Il sera.
Vous écoutez heure. RMC et vous mettez les enfants devant la télé.
Voilà. Ben voilà,
le programme est parfait.
À la une de 7h sur RMC, pour ou contre les trottinettes en libre service, les Parisiens sont appelés à se prononcer ce dimanche.
Et à 7h20, Florent Pagny se livre dans une autobiographie. Sa liberté de penser, Nicolas Poincaré nous la raconte dans son portrait. À tout de suite sur RMC. Merci de votre fidélité.
RMC, la matinale week-end.